Souvenez. Donc, Goliath est par terre. Il n'a plus de tête. Lui qui faisait peur à tout le monde, il a perdu la tête définitivement. Et les Israélites, quand ils ont vu la victoire de David, ont couru derrière les Philistins et les ont poursuivis et ont pris le butin. Donc on en était là. Donc on va lire dans 1 Samuel chapitre 17, verset 55. Lorsque Saül avait vu David sortir à la rencontre du Philistin, donc de Goliath, il avait dit à Abner, le chef de son armée, qui était aussi son oncle en passant, « De qui ce garçon est-il le fils ?» Abner. Abner avait répondu, « Par ta vie, roi, je ne sais pas. Renseigne-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. » Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et l'amena devant Saül. J'aime bien le petit verset qui suit. David avait à la main la tête du Philistin. Un peu gore. Saül lui dit, mon garçon, de qui es-tu le fils? Ça lui tenait à cœur. Hein? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Jessé, le Bethléemite. Dès que David eut achevé de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, son épée, son arc et sa ceinture. C'est un geste très symbolique. David partait en campagne, partout l'envoyait Saül, et tout lui réussissait. Saül le mit à la tête des hommes de guerre, et il plut à tout le peuple, même aux gens de la cour de Saül. Au moment où les gens revenaient de campagne, lors du retour de David, après qu'il eut abattu le Philistin, les femmes, sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant. Ah, elles avaient de quoi chanter et de quoi danser, parce que vous savez, quand les Philistins envahissaient un pays, ils n'étaient pas tendres, surtout pas avec les femmes. Donc en chantant, en dansant, à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes qui jouaient de la musique se répondaient les unes aux autres. Aïe, aïe, aïe. Saül a abattu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Oh, Saül fut très fâché. Cela lui déplut. Il dit, on donne des dizaines de milliers à David et à moi, on me donne les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. Certaines traductions disent d'un mauvais œil. Le lendemain, un mauvais souffle de Dieu, on va réfléchir un peu là-dessus, s'empara de Saül qui se mit à faire le prophète au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit sa lance en disant « Je vais clouer David au mur !» Mais David l'évita par deux fois. Et là, vous remarquerez que c'est quand même pas tout à fait normal. Saül eut peur de David. Moi, j'aurais écrit l'inverse. Saül eut peur de David parce que le Seigneur était avec David et qu'il s'était éloigné de Saül. Saül éloigna David et le fit chef de 1000 hommes. David partait en campagne, revenait avec la troupe. David réussissait dans toutes ses entreprises et le Seigneur était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül était effrayé par lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce que c'était lui qui partait en campagne et qui revenait devant eux. Saül dit à David, « Voici ma fille aînée Merab, je te la donnerai pour femme. Sers-moi seulement avec vaillance et mène les guerres du Seigneur. » Saül se disait, que ce ne soit pas moi qui le tue, mais les Philistins. Mène les guerres du Seigneur. David répondit à Saül, qui suis-je et qui est mon lignage, le clan de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi? Lorsqu'arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. J'aime bien la Bible, fais pas de commentaires. Imaginez. Michal, fille de Saül, elle aimait David. On le dit à Saül et la chose lui convint. Comme il est gentil. Saül se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège et que les Philistins le tuent. Ça devient une obsession. Par deux fois donc, Saül dit à David, aujourd'hui tu vas t'allier par mariage avec moi. Saül donna cet ordre aux gens de sa cour. Dites à David sur le ton de la confidence. Manipulateur. Tu plais au roi et les gens de sa cour t'aiment. Allie-toi au roi par mariage. Les gens de la cour de Saül dirent cela à David. David répliqua, oh, est-ce peu de choses à vos yeux que de s'allier au roi par mariage? Moi je suis pauvre, je suis peu de choses. Les gens de la cour de Saül rapportèrent les paroles de David. Saül dit, vous direz à David, le roi ne désire pas de dot. Comme c'est gentil. Mais sans prépuce de Philistins, curieuse dot, pour être vengé de ses ennemis. Saül comptait faire tomber David aux mains des Philistins. Là, ça devient vraiment une obsession. Les gens de la cour rapportaient ces paroles à David et l'idée convint à David. C'est ainsi qu'il s'allierait au roi par mariage. Avant le terme fixé, David partit avec ses hommes et il tua 200 hommes parmi les Philistins. David apporta leur prépuce et l'on en livra au roi le nombre complet afin qu'il puisse s'allier au roi par mariage. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et sut que le Seigneur était avec David. C'est important, hein, il le voit, il le sait. Quant à Michal, fille de Saül, elle aimait David. Saül craignit de plus en plus David. Désormais, Saül fut toujours l'ennemi de David. Les chefs des Philistins faisaient des incursions. Chaque fois, David réussissait mieux que les gens de la cour de Saül et son nom devint très célèbre. Bien, le pauvre David se trouve entraîné dans une vie qu'il n'avait pas du tout cherchée, ni le bon ni le mauvais côté, il n'avait rien cherché du tout. Il se trouve entraîné dans quelque chose d'assez pénible finalement. Avant de faire cette étude, je me disais toujours, enfin, le pauvre David, il n'a rien demandé à personne. Et tout lui est tombé dessus, le bon et le mauvais, et pas mal de mauvais, hein. Je trouve au début plus de mauvais que de bons d'ailleurs. Le pauvre. Et c'est vrai que lui, il n'a rien demandé. Parfois, on a un peu cette impression dans notre vie, ça vous est jamais arrivé, de dire « mais moi, j'ai rien demandé ». Puis il y a les choses qui nous tombent dessus. David en savait quelque chose. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Ça commence donc avec un tableau assez horrible. David qui tient la tête de Goliath à la main. La Bible ne dit jamais rien pour rien. Si elle nous donne cette image assez horrible, c'est qu'elle a une idée. La parole de Dieu est là pour nous faire réfléchir. Et vous imaginez ce que ça représentait pour les Israélites de voir ce petit bout de chou qui était vraiment très jeune, qui avait à la main la tête d'un homme qui inspirait la crainte à tout le peuple. C'était quand même frappant. Si ce petit bonhomme de rien du tout que ses propres frères méprisaient et qui se balade avec la tête de Goliath à la main. C'est quand même un spectacle assez étonnant. Et je pense qu'il y a un message là aussi. Celui qui faisait peur, celui qui inspirait une telle frayeur au peuple. Et vous savez, la guerre à cette époque-là, c'était pas mieux que maintenant. Quand vous lisez un peu ce qui se passe avec Daesh, vous pouvez avoir une idée des guerres de cette époque-là. Il y avait de quoi avoir peur. Il n'y avait pas de convention de Genève. Pas tout ça. Et la libération qu'ils devaient ressentir les gens, évidemment c'est horrible, mais se dire ces gens-là vont plus nous inspirer de pareilles craintes. Et curieusement, on se pose la question, pourquoi est-ce que Saül s'intéresse à la famille de David? Vous n'êtes pas posé la question. Vous avez vu, j'ai insisté plusieurs fois, il va poser la question à son tonton Abner. Qui était aussi le chef de son armée. Pourquoi il voulait savoir qui était la femme? Normalement, il jouait déjà à la cour, si la chronologie est juste. Alors, les critiques sont partagées, mais admettons qu'elles soient justes. Comment ça se fait qu'il ne savait pas d'où sortait David? Je pense que c'est une façon de nous dire que David était vraiment rien du tout. Qu'il venait justement d'une petite famille, pas très riche, d'un clan, pas très riche. Donc il a oublié. Hein. Si on vous dit qui c'est ça, ah bah c'est Dupont de tel petit coin, etc. Rien de spécial. vous retenez pas. Maintenant, si on vous dit, attention, c'est le fils du sénateur machin qui possède telle usine et qui... Voilà, ça, on s'en souvient. Mais là, le pauvre David, il n'avait rien pour lui. Donc, visiblement, Saül a oublié tout ce qu'on lui avait dit. Donc, il redemande. Mais qui c'est, ce gars? Il aurait dû quand même s'en souvenir. C'est lui qui jouait de la harpe pour le calmer. Mais apparemment, il le voyait plutôt comme un médicament que comme une personne. Donc, il s'intéresse à sa famille. Est-ce qu'ils sont riches? Il se trouve que maintenant, Saül est beaucoup intéressé par des choses qui ne l'intéressaient pas trop avant. L'argent, l'importance, la célébrité. Peut-être justement dans l'optique, il avait promis que celui qui tuerait Goliath se marierait avec sa fille, comme dans les contes de fées. Et donc, qui il est, d'où il sort, quelle dot il va apporter en dehors de la tête de Goliath, tout ça, ça commençait à lui trotter dans la tête. Et puis, par ailleurs, il aime s'adjoindre les meilleurs soldats. Donc il va garder, vous avez vu, il va garder David auprès de lui, il va l'empêcher de retourner chez son père. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Voilà, il se prenait pour quelqu'un là, Saül. C'était plus le petit Saül du début qui se cachait derrière les bagages. Il commençait à savoir ce qu'il voulait. Il s'adjoint les meilleurs soldats, il garde David près de lui. En fait, Saül est centré sur tout ce qui est naturel, tout ce qui est humain. La richesse, la célébrité, la puissance, la force. Nulle part, il est demandé quelque chose sur la foi de ce garçon. Et c'est étonnant, parce que qu'est-ce qui lui a permis de tuer Goliath? C'était sa foi, sa confiance en Dieu. Et d'ailleurs, il s'en était pas caché. Il lui avait dit, le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main. Il lui avait dit en face. Mais apparemment, Saül, ça lui a passé au-dessus de la tête. C'est qui sa famille? Est-ce que ce sont des gens riches? Est-ce que des gens célèbres? Il n'a même pas été impressionné par la foi du jeune garçon. Oh, c'est quand même dommage. Par contre, on va trouver un contraste complet avec son fiston, Jonathan. Jonathan, lui, tout de suite, il a pigé qui était David. Et vous vous souvenez, Jonathan, c'était lui qui faisait des expéditions contre les Philistins avec son serviteur, qui disait « Dieu peut nous donner la victoire, même si on n'est que deux ». C'était le même style d'esprit. Et tout de suite, il va bien s'entendre. Qui se ressemble, s'assemble, on dit souvent. Donc ça peut nous faire réfléchir d'ailleurs, qui est-ce qu'on fréquente? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est parlant. C'est parlant pour nos enfants aussi. Et Jonathan, lui, il va trouver plus qu'un frère en David. Ils ont le même caractère combatif, la même foi, le même courage, la même vision. C'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est exactement les paroles de Jonathan quand il était allé se battre tout seul avec son serviteur. Vous vous souvenez, ça fait un petit moment qu'on a vu ça. C'est la même confiance en Dieu. Il va lui donner ses vêtements. Ça, c'est un signe d'alliance. Très fort. Donner son vêtement, les prophètes, donnaient le prophète Élisée qui a repris le vêtement d'Élie, c'est ça? C'est un geste prophétique et c'est doublement prophétique. Je ne sais pas s'il en était conscient, Jonathan, on peut se poser la question. Il lui donne son manteau, il lui donne ses vêtements, son arc, son épée, sa ceinture. En quelque sorte, il lui donne la succession au trône. Les vêtements représentaient le rôle qu'on prenait dans la société. Et c'est comme si Jonathan sentait que c'était David qui allait succéder et pas lui. C'était lui le successeur, c'était lui le prince, c'était lui qui devait remplacer Saül. Et par ce geste-là, je pense qu'il y a quelque chose de prophétique dans son geste. Il comprend que c'est David qui va succéder. Est-ce qu'il est au courant des prophéties? Est-ce qu'il, lui, s'est renseigné, mais du bon côté, pas seulement pour savoir s'il avait des sous, mais pour savoir quel homme c'était? Visiblement, il est plus fin que son père. Il a compris. Et ce geste-là n'est pas innocent. Pas du tout. Il a compris que ce serait le successeur de Saül. Et il lui donne les droits qui lui reviennent, en fait. Alors, beaucoup de gens à notre époque vont parler de David et Jonathan. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle comme ça, qui se dit chrétienne, et qui prétendent que David et Jonathan avaient une relation homosexuelle. Alors, ce n'est pas compliqué à vérifier. Je crois que regardez un peu la vie de David et la vie de Jonathan, si vous regardez un peu sa vie, ses enfants, sa vie de famille, la vie de famille de David. Je crois que c'est psychologiquement ridicule. même si c'est déjà ridicule au niveau de la foi, mais on n'a pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre que ce n'est pas possible. Je pense que vous pourrez poser la question à M. Poujol quand il viendra. En bon psychologue, il a fait, et d'ailleurs il a fait en passant une étude psychologique de David qui est passionnante. Je l'ai entendu, j'en ai beaucoup discuté avec lui quand il était à la maison. Donc Jacques Poujol est psychologue, est docteur en psychologie, c'est l'auteur du guide marabout de la psychologie. Donc, c'est pas n'importe qui. Et je pense que vous pourrez lui poser la question, mais psychologiquement, c'est pas envisageable. Donc c'est l'imaginaire des humains qui ont créé cette association, c'est sûr. Pas besoin d'être grand clair pour voir qui était David et qui était Jonathan. Voilà. Alors, on remarque aussi une autre chose, c'est que David est aimé de tout le monde. Et c'est curieux, hein, je pense toujours à ce verset, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et ça, ça se voit souvent. Souvent, on a des problèmes, on a des difficultés, mais dans la prière, Dieu dispose favorablement les gens. On est parfois même surpris que des gens qu'on aurait pu croire hostiles, on a prié et puis ils sont devenus favorables. Dieu dispose favorablement les gens quand il approuve les voies d'un homme. Parfois, il a d'autres raisons de laisser de l'animosité, mais en général, cette vérité se vérifie. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien toucher David comme ça, toucher les gens chez David? On peut se poser la question, pourquoi tout le monde l'aimait? Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui ressortent dans ce texte. Jonathan s'est attaché à lui. David partait en campagne, partout où l'envoyait Saül. C'est-à-dire que Saül disait, allez, tu vas là-bas, il y allait. Remportait la victoire, il était avec les soldats. Il était proche des gens, visiblement. Puisque tout lui réussissait, évidemment, les gens, ils aiment bien être avec des gens qui réussissent. Et puis, il le met à la tête des hommes de guerre et il va plaire à tout le peuple, même aux gens de la cour. Et pour plaire aux gens de la cour, hein, c'est pas évident. Parce qu'ils se prennent pour quelque chose, vu fait qu'ils sont à la cour du roi, ils sont un peu difficiles, gna gna gna, ils cherchent la petite bête chez tout le monde. Mais avec David, ils n'avaient rien à dire. David restait humble, abordable, il connaissait son identité, il connaissait sa place, il ne cherchait pas à être plus haut qu'il n'était. Et tout le monde s'attachait à lui. Il avait une personnalité qui reflétait son attachement à Dieu. Je crois que c'est une question qu'il vaut la peine de se poser quand on a des soucis au travail ou dans le voisinage, de se dire, Seigneur, peut-être c'est une animosité normale, parce que voilà, les gens n'aiment pas toujours les chrétiens, il y a des conflits de caractère, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi qui provoque ces animosités? Je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Il ne faut pas se culpabiliser, attention, mais ça vaut le coup de se poser la question. Ces personnes-là ne m'aiment pas, ces autres-là, ce commerçant ici ou ce voisin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi qui ne reflète pas suffisamment Jésus? Alors, ce n'est pas pour devenir complètement coupable et pleurer toute la journée, mais pour dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais m'aider à changer dans ma vie pour que les relations humaines soient différentes? Alors, moi, j'ai été frappée par le témoignage de cette dame qui, bon, malheureusement, elle a été baptisée ici, elle a déménagé le mois suivant, donc elle n'est plus là. Mais il y avait quelqu'un ici, pendant la cérémonie de baptême, qui pleurait. Et je me suis dit, pourquoi cette dame pleure? Est-ce que c'est de la famille? Et au moment du témoignage, j'ai compris. C'était sa patronne, et pendant des mois et des mois, c'était à couteau tiré avec cette patronne. Puis cette dame s'est convertie. Elle s'est engagée avec le Seigneur, et le Seigneur lui a montré de rétablir la relation avec sa patronne, de s'excuser pour ses comportements, de demander pardon. Et la patronne a tellement été touchée, son cœur a été touché, elles sont devenues les meilleures amies pour les derniers mois qui restaient, et elle était là, assise le jour du baptême. Et elle pleurait de voir son employé qui avait tellement changé. Donc voyez, parfois, ça vaut le coup de se poser les questions. Si j'ai des conflits, beaucoup, Seigneur, quelle est ma part? Est-ce que c'est 10%, 20%, 100%? Le Seigneur vous le dira, ça peut arriver, on est humain. Et je crois que l'exemple de David m'a fait réfléchir. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui reflétait tellement l'humilité, l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie, que partout il passait, c'était pas magique, hein. C'était pas Dieu. Dieu envoyait pas de la poussière de fée de Peter Pan là pour dire oh, voilà, tout le monde va aimer David. Non, non. Il reflétait quelque chose dans sa vie qui permettait à tout le monde de l'aimer. Ça, c'est évidemment, comme vous l'avez constaté, ça marchait pas avec Saül. Au contraire, chez Saül, ça faisait l'effet contraire. Et ce qui choque peut-être aussi les gens, c'est qu'après cette victoire folle, complètement folle, il n'a pas la grosse tête. Bah, je trouve qu'il avait les reins solides quand même, hein, pour ne pas avoir la grosse tête après un truc pareil. Vous imaginez ? Imaginez, vous réglez le problème de l'immigration en France. Au plus grand bonheur de tout le monde, des Français et des gens qui viennent. Mais imaginez, les gens seraient complètement en adoration devant vous. J'essaie de trouver des images qui sont aussi fortes, quoi, pour dire, mais il y avait de quoi avoir la grosse tête. Ouais, fini les gars, fini les géants. Vous avez eu le dessus, maintenant. Quel soulagement. Et il n'a pas eu la grosse tête. Chaque fois même qu'on lui a demandé d'être le gendre du roi, vous avez pas vu qui je suis, moi. Non, je suis rien. Impressionnant. Alors là, il y a un autre problème qui est choquant. C'est nos petites dames, là. Ah, en général, je soutiens les femmes, hein, quand même. Mais là, j'ai un souci. J'ai un souci parce qu'elles n'ont pas été raisonnables. Elles étaient tellement contentes. Vous savez, la perspective d'être attaquée, d'avoir sa maison radiée, brûlée, d'être violée, c'est pas drôle. Donc j'imagine la joie qui a éclaté dans les villages, hein. Logique. Elles vont à la rencontre du roi pour lui exprimer leur joie, c'est normal. Mais moi, j'ai un petit problème avec ce qu'elles ont dit. J'ai réfléchi. Et j'ai comparé avec d'autres chants de victoire. Alors j'en ai comparé avec deux. Myriam, la sœur de Moïse. Écoutez ce que disait Myriam, Exode 15. Chantez pour le Seigneur, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté à la mer le cheval et son cavalier. Victoire extraordinaire. Ils devaient tous mourir pris entre la mer et les Égyptiens. Chantez pour le Seigneur. Bon. Déborah, juge 5. Bénisse. Alors elle quand même, hein, elle était à la tête de l'armée avec le général. C'est elle qui a secoué le général pour lui dire « Allez, on y va, hein, on ne va pas se laisser marcher dessus. » Et qu'est-ce qu'elle dit, Déborah ?« Bénissez le Seigneur. Moi, je chanterai pour le Seigneur. Mon cœur va au commandant d'Israël, aux gens du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez le Seigneur. » Non pas bénissez ces gens, mais bénissez le Seigneur. Ah, ça, c'était des chants qui glorifiaient Dieu. Maintenant, nos petites dames, qu'est-ce qu'elles chantent ? David, David, Saül, 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 c'est 1000, David, c'est 10 000. Mais ce qui m'ennuie, j'ai bien cherché, j'ai rien vu pour le Seigneur. Rien du tout. C'est bizarre quand même. Quand même. Je sais que Samuel était encore vivant. Il y avait encore une imprégnation de la présence de Dieu dans ce peuple. Pas un mot pour dire « bénissez le Seigneur ». Pourtant, Déborah, c'était à l'époque des juges. Hein. Vous savez ce qu'il est toujours dit des juges ? La parole de Dieu se faisait rare en ce temps-là et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, Déborah a béni le Seigneur. Myriam, il sortait d'Égypte, ça faisait 400 ans, qu'il commençait à se mélanger un peu quand même à la culture égyptienne, la Bible dit à un autre endroit. Et Myriam chante « chantez pour le Seigneur ». Et là, rien pour le Seigneur. Saül, Saül, David, David. Alors, sans le vouloir, elles font une comparaison entre deux hommes. Elles ne pensent pas du tout au Seigneur. Elles pensent peut-être que Saül allait être fier de son soldat. Mais elles glorifient l'homme et pas le Seigneur. Et chaque fois qu'on oublie le Seigneur, nos paroles deviennent dangereuses. Et pourquoi beaucoup de ministères évangéliques se sont misérablement cassés la figure ? Parce qu'on a glorifié l'homme. On l'a tellement mis sur un piédestal. On a tellement dit qu'il était extraordinaire, qu'il avait une onction extraordinaire, etc. Pas que la personne, un jour, elle s'est cassée la figure. On fait du mal quand on glorifie l'homme. Alors, il ne s'agit pas de ne pas être reconnaissant. Il ne s'agit pas de ne pas reconnaître, c'est gentil, vous avez fait ça et ça, ok. Mais attention, dans les grandes victoires comme ça, dans les moments, il faut glorifier Dieu. Dieu qui a donné un bon roi, Dieu qui a donné un bon soldat peut-être. Mais vous avez vu, Déborah, elle avait trouvé la juste mesure. Mon cœur va au commandant d'Israël, aux gens du peuple qui sont portés volontaires, donc à tous ceux qui ont fait la guerre. Bénissez le Seigneur. Voilà, elle a trouvé la bonne mesure. Mon cœur est affecté par tous ces gens qui se sont levés pour combattre, parce qu'elle a eu du mal à les faire lever. Et après, bénissez le Seigneur. Et combien de fois il faut qu'on se retienne, je pense, de glorifier l'homme. Alors, il y a plusieurs hommes de Dieu qu'on admire énormément, vous l'avez remarqué. Mais à chaque fois, dis merci Seigneur pour cet homme, pour ce que tu lui as donné, pour ses épreuves. Merci parce qu'il a fait du chemin. Et il n'est pas parfait. Et ça, bon, ça nous rassure aussi, on n'est pas parfait. Mais attention, de ne pas monter en épingle des hommes de Dieu parce que ça les amène à leur chute. Et surtout, ça crée des jalousies. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de Saül ? Il va entendre la comparaison 1000, 10 000. D'après des étudiants d'hébreu, ce n'était pas aussi mathématique que dans notre esprit français. C'était juste une façon de dire beaucoup et très beaucoup, quoi. C'était pas aussi mathématique que 10 fois plus, hein. Bon, dans le langage. Mais n'empêche que lui, il va faire l'équation dans sa tête et il va se sentir complètement écrasé. Et en passant, je dirais attention aux paroles de comparaison dans les familles. Oh, petit loulou, il est tellement plus intelligent que la petite cocotte là. Ou bien, oh, celui-là, on n'en fera jamais rien. Oh, celui-là, il réussira jamais à l'école. Oh, celui-là, il est doué, il va pas avoir de problème, etc. C'est des paroles qui tuent. C'est vrai dans les familles, c'est vrai dans la famille de l'Église, c'est vrai au travail. Il y a des paroles qui peuvent blesser durablement. J'ai vu des gens qui, encore à 40, 50 ans, avaient encore dans leur tête les paroles négatives qui avaient été dites sur eux à la maison. Donc attention, évitons les comparaisons. En fait, les différences entre les humains, que ce soit des enfants, des gens au travail, à l'église, ça permet la complémentarité. Donc, parlons plutôt de complémentarité que de différence. De mieux qu'eux ou moins bien qu'eux. J'ai besoin de l'autre parce qu'il a certains points forts, là où moi j'ai des points faibles. Alors c'est marrant parce qu'on avait un entretien de mariage hier où on a parlé de ça, je suis désolée, je me répète, mais voilà, c'était prévu, je l'avais écrit avant. Donc je ne suis pas très bon dans tel domaine, je peux progresser et j'apprécie que toi, tu es excellent dans ce domaine-là. C'est dans cet esprit-là qu'on doit voir les choses. Et justement, ce qu'on disait hier, c'est souvent le cas dans les couples. Vous allez vous demander comment un matheux, comme André, a pu épouser quelqu'un qui était complètement littéraire, comme moi. Vous avez dans un couple quelqu'un qui va tout garder précieusement et l'autre, en général, qui va tout jeter joyeusement. Vous allez en avoir un qui est hyper aventurier et l'autre beaucoup plus prudent. Il y en a un qui va être très sociable et l'autre plus attentif à ses relations. Il y en a un qui va être expansif, méridional. Je pense à Jean Brunet quand je pense. Et puis l'autre plus réservé. Je ne sais pas si sa femme, mais elle m'a l'air beaucoup plus réservée que lui. Oui ? Non ? Voilà. Donc souvent, on va trouver ça dans les couples et ce n'est pas une cause de guerre, c'est une cause de complémentarité. Et c'est important aussi dans l'Église. Comme vous avez pu le remarquer, le pasteur parfait n'existe pas. La femme non plus d'ailleurs, femme du pasteur, c'est dommage. Je suis désolée de vous décevoir. D'où l'importance des équipes dans l'Église. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Et il est bon qu'un pasteur, par exemple, s'entoure de gens qui vont le compléter là où il est moins bon. Et au lieu de dire, oh, il est hyper mauvais dans ce domaine, dire, bah, c'est bien. Nous, on va essayer de contrebalancer ou on va essayer d'aider. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être bon partout. Plutôt que d'entrer en compétition, il faut penser qu'on est un corps. C'était écrit, c'est pas... Attention, on est un corps. Donc, on va se compléter. Et essayons de ne pas en faire des motifs de conflit, mais plutôt de se dire, ouais, moi, franchement, je ne suis pas terrible dans ce domaine, mais lui, ouf, chouette, il l'est. Et comme ça, le corps va bien fonctionner. Je suis désolée quand j'entends des choses, alors pas ici, malheureusement, j'ai entendu des pasteurs dire ça. Bon, écoutez, moi je suis colérique, c'est comme ça. Voilà. Ça ne peut pas changer. Puis c'est OK. Et puis voilà, mon assistant, lui, il est calme. Ben, c'est bien. Voilà. Ce n'est pas un prétexte. Hein. La complémentarité, ce n'est pas un prétexte à ne pas faire de progrès. C'est une chose de se compléter, mais c'est aussi, ça ne doit pas être un prétexte pour ne pas faire de progrès. J'ai malheureusement entendu ça. Je suis colérique. Voilà. C'est moi. Je suis comme ça. Puissance de transformation de l'évangile s'arrête quand je dis moi je suis comme ça. Et ça, ce n'est pas OK. Hein. Il y a des tas de moyens de guérir, de progresser. Certainement, la personne très colérique ne va pas devenir une eau calme, mais elle peut quand même ne plus être colérique. Hein. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas OK de dire je suis comme ça, et puis tant mieux, c'est l'autre qui me complète. Voilà, donc il y a les deux. Hein. D'une part, il faut apprendre à se compléter, à ne pas se comparer, et d'autre part, dans la complémentarité, on progresse. Parce qu'en voyant quelqu'un d'autre faire les choses, moi je vais progresser parce que je vais l'imiter. Hein. Je suis devenue beaucoup plus objective avec un matheux à côté de moi, un scientifique. Ouais, mais quelles sont les preuves? Et t'as rien de concret. Voilà. Hein. Alors petit à petit, je sais que je vais entendre ça, donc je prépare mon truc et j'essaie d'avoir les choses concrètes qu'il faut pour être le plus objectif possible. Voilà. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. La complémentarité est aussi là pour nous faire progresser, pas seulement pour nous compléter. Bon, alors nos femmes, là, elles ont bien gaffé. Hein. Des paroles malheureuses qui vont terriblement fâcher Saül. Et surtout, le pire, c'est que ça va changer son regard sur David. Ce qui soit fâché, c'est ses oignons, mais ça va complètement changer son regard sur David. Voilà, certaines traductions parlent d'un regard mauvais ou un regard méchant. Là, j'ai malveillant. Enfin, suivant les traductions, vous verrez, ou un œil malveillant. Son regard sur David va complètement changer. Et je pensais au problème des paroles qui changent notre regard. J'ai connu des gens qui étaient experts dans ce domaine. Ils sont plus là, n'ayez pas peur. Mais des gens qui étaient capables de vous dire du bien d'une personne. Oh, telle personne, mais elle est sympa, elle est très bien. Mais, et puis commencez à vous mettre sur le nez des lunettes colorées. Mais là, à tel moment, ce jour-là, dans telle conversation, et tout doucement, vos lunettes commencent à se colorer. Et vous n'avez plus le même regard sur les gens. Il y a des gens qui sont experts là-dedans. Faites attention, dans le monde, il y en a beaucoup aussi. Et attention, de demander à Dieu son regard et de ne pas se laisser influencer par le regard qu'on essaie de vous fourguer avec toutes sortes de choses, d'allusions, de suppositions. Attention à notre regard sur les gens. Demandons vraiment le regard de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez Saül? Eh bien, c'est la jalousie qui va s'installer. Bien sûr, la comparaison était là. 10 000, et moi alors? Et vous avez vu sa réflexion, c'est intéressant. On donne des dizaines de milliers à David, à moi, on me donne les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Oui. Le pire, c'est qu'il avait raison. La royauté, elle lui a déjà été donnée par Dieu. Et la jalousie, ça va être une catastrophe dans la vie de Saül. La jalousie est une catastrophe dans la vie d'un être humain. Je crois que je disais toujours à mes élèves en 5e, s'il y a un truc qu'il faut que vous refusiez dans votre vie, c'est la jalousie. Dites-vous que l'autre est différent, tant mieux pour lui, mais dites-vous, bah oui, je voudrais bien être comme lui, je vais essayer de voir ce que je peux changer dans ma vie, peut-être, ok. Mais surtout, ne laissez pas entrer la jalousie. Et le problème, c'est que les Français, là c'est clair, ont un énorme problème de jalousie. Donc il faut qu'on soit prudent, nous, en France. C'est Pierre Daninos, qui est un humoriste que moi j'aime beaucoup, que seulement les gens les plus âgés peuvent connaître, j'imagine. Mais il a écrit beaucoup de livres dans les carnets du Major Thompson, etc. Bon, c'est de la vieille littérature. Je vous fais grâce. Mais il avait dit quelque chose de très juste. Il dit, à Hong Kong, si je vais à Hong Kong, le gars, il regarde passer une Rolls, et lui, il a une toute petite voiture, et il dit, ah, en travaillant bien toute ma vie, moi, j'en aurai une comme ça. Il dit, on va en France, on voit le gars, avec, à l'époque, c'était les deux chevaux, il voit passer une Mercedes, et il dit, le salaud avec cette grosse bagnole. l'esprit français. Attention, on a cette tendance qui n'est pas juste. Et c'est lié à notre culture, ça, hein, notre culture française. Je ne sais pas si ça atteint les Antillais aussi, si on a transmis ça à d'autres, mais c'est vraiment dommage. Parce que c'est certainement lié, oui, en partie à certains enseignements catholiques, mais la jalousie, avec la jalousie, tout devient tordu dans un être humain. Le regard change et ça ouvre la porte à des mauvais esprits. C'est un clou, comme je racontais ce matin, qu'on attache à notre porte. Une fois qu'il y a de la jalousie dans le cœur, c'est fichu. On ne voit plus les autres pareils. On va imaginer même des choses qui sont fausses. On va se faire des scénarios complètement paranoïaques. Il m'en veut, il ne m'aime pas, gna 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 gna. Et ça ouvre la porte à des mauvais esprits. Alors après, vous pouvez faire la liste des mauvais esprits qui vont entrer. Ils rentrent parce que c'est une porte grande ouverte. La jalousie est une porte grande ouverte. Et il y a un pasteur qui disait, moi quand je vois quelqu'un avec un manteau neuf, c'était dans les années 50, hein, c'était rare, je dis, oh merci Seigneur, tu lui en as donné un neuf. Alors écoute, il y a moi aussi qui en ai besoin, alors fais pareil s'il te plaît. Au lieu d'être jaloux, dis, mais Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu vas le faire pour moi. Voilà, il faut changer d'état d'esprit. Et vous voyez où est-ce que ça va mener chez Saül ? Ça ouvre la porte à des esprits méchants, des esprits de meurtre. Jusqu'où ça va ? La jalousie. Et il va tuer. Alors nous aussi, la jalousie peut nous amener à tuer. Et à tuer pas forcément avec une lance, mais avec la langue. Combien de médisances et de calomnies, je pense particulièrement au travail, hein, viennent de la jalousie. C'est bête, c'est dommage. Et puis qu'est-ce que ça ? Ça ronge l'intérieur du cœur. Alors, quel regard on porte sur notre entourage ? Dieu, lui, nous appelle à avoir un regard bienveillant, c'est-à-dire un regard qui veut le bien. Et vous savez, moi, j'ai un critère, c'est pas j'avais, mais j'ai toujours un critère pour choisir un médecin. Ah ! Quand j'emmenais les enfants, hélas, trop souvent, à l'hôpital, il y a un truc que je supportais pas chez un de ces médecins. C'est que quand le gamin allait bien, qu'il ne s'était pas fait mal, elle faisait la tête. Est-ce qu'elle se sentait inutile ou quoi ? J'en sais rien. Et quand mon médecin de famille avait dit un jour, ben voilà, les deux jambes sont bien à la même hauteur, tout est réparé, c'est formidable. Et j'arrive à l'hôpital. Elle dit n'importe quoi, cette médecin, elle ne connaît pas son métier. Pff, comment ça l'a traîner dans la boue. Je dis ça, c'est pas un bon médecin. Après, on en a eu un autre. Grâce à Dieu. On en a eu un autre, et celle-là, quand ça allait bien, oh, elle vous accueillait avec un grand sourire. Alors, il n'y a rien eu, tout va bien. Oh, ils sont en bonne santé, c'est merveilleux. Et puis quand ça n'allait pas, elle était toute triste. Oh non, pas encore. Oh, quel dommage. Je dis, ça, c'est un médecin qui est bien. Parce que son regard, c'est pas mon diagnostic. J'avais dit que ça irait mal, donc chouette, ça va mal. Mais c'est, je m'attendais au pire, et puis finalement, les choses vont bien, ouf, tant mieux. Vous voyez ? Le regard n'était pas le même sur le patient. Il y en a une, elle était fière de son diagnostic. J'avais dit que ça se passerait mal, j'avais dit que ça irait mal. Puis l'autre, tout ce qu'elle cherchait, c'est que ça aille bien. Et que si son diagnostic était faux, ben tant mieux, elle était ravie. Elle n'était pas centrée sur elle. Donc la bienveillance, c'est important. C'est déjà ne plus être centré sur soi, mais sur le bien de l'autre. Et Saül était incapable de faire ça. Parce que la jalousie était rentrée dans son cœur, les esprits méchants étaient rentrés dans son cœur. Il n'arrivait même plus à être bienveillant. David lui avait rien fait. En plus, ce n'était pas de sa faute à lui. Encore, il aurait râlé sur les bonnes femmes. Mais non, il en voulait à David qui n'y était pour rien. La bienveillance, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous donne envie d'obéir et de plaire à Dieu. Beaucoup plus qu'un regard réprobateur ou un regard qui juge. Parce que la bienveillance cherche le bien de la personne. Si seulement Saül avait pu avoir ce regard bienveillant, ça aurait été quoi ce regard bienveillant ? Ça aurait été de dire « Ah, oh, qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir recruté un soldat comme ça !» Au moins, les villages vont arrêter d'être rasés, les récoltes volées. Ah, on va connaître un peu de paix. Au moins, celui-là, il ne va pas nous faire défaut. il tient la route. Puis bon, j'ai entendu dire que vraiment Dieu est avec lui. Tout le monde l'aime. Ouh, mon royaume va bien fonctionner avec des gens comme ça. Ça aurait été ça, la bienveillance. Mais il était incapable de faire ça. Il avait laissé, la jalousie avait laissé la porte ouverte au mauvais esprit. Le pire, c'est que ce pauvre Saül, en plus, il a peur de David. Et ça, c'est un truc que j'ai pas compris en lisant. C'est marrant. C'est David qui est attaqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce truc. Je vais clouer David au mur. Mais David l'évite deux fois. Verset suivant. Saül eut peur de David. Ah, moi, j'aurais attendu David eut peur de Saül. Ah, c'est lui qui a lancé la lance. Ouh, David a réussi à l'éviter. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu peur, ce pauvre David. Il n'en est même pas question. Le seul verset, c'est « Saül eut peur de David ». Les choses marchent à l'envers. C'est curieux. La cause profonde, c'est que Saül sentait que le Seigneur était avec David et qu'il s'était éloigné de lui. Mais misère, il y avait une solution. Qu'est-ce que dit la Bible ? « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Au lieu de dire « Oh Dieu, il s'est éloigné de moi, il est avec l'autre ». La recette, elle est là, elle était même là à l'époque. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si Saül s'était approché de Dieu, il n'aurait pas eu besoin de pleurnicher sur le fait que Dieu s'était éloigné de lui et qu'il était avec David. Et voyez, tous les versets concordent, verset 15. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül était effrayé. Il est vraiment tordu, le gars. Son peuple va vivre en paix, les ennemis sont éliminés, la cour, tout le monde est heureux, c'est l'unanimité. Il a peur. Effrayé par lui. Verset 29, Saül craignit de plus en plus David. Et désormais, alors là c'est le bouquet, Saül fut toujours l'ennemi de David. C'est pas logique, hein. Voyez, ce que fait la jalousie, elle nous coupe de toute rationalité, elle nous coupe de toute logique, elle nous coupe de notre intérêt, elle nous coupe de la bienveillance, elle nous coupe de la présence de Dieu, elle nous coupe de la volonté même de s'approcher de Dieu. La jalousie, ça bousille tout. Saül va avoir les yeux rivés sur l'humain, il va être incapable, et ça à cause de sa jalousie, il va avoir les yeux fixés sur David tout le temps, au lieu de lever les yeux vers le Seigneur. Si seulement il s'était rangé du côté de Dieu, les choses auraient changé. Ah, il serait peut-être pas... Peut-être David aurait quand même succédé, c'est même probable, puisque c'était ce que Dieu avait décidé, mais il aurait pu vivre en paix au lieu d'être bouffé, rongé par la jalousie. Vous voyez, attention, parce qu'une petite jalousie peut nous bousiller la vie. On va peut-être s'arrêter là parce que je pense que c'est important peut-être de prier là-dessus. Prier pour nos enfants, prier pour nos paroles, pour notre regard. Saül avait l'occasion de se racheter, il avait l'occasion de se tourner vers Dieu et d'être transformé. Juste encore là, il pouvait. Mais il a préféré choisir la jalousie, la malveillance, la colère, le meurtre. Seigneur, viens visiter nos cœurs ce matin. Tu sais, comme l'ennemi est un serpent qui peut s'infiltrer tellement facilement dans nos cœurs, que tu puisses vraiment nous débarrasser de tout sentiment de jalousie, même si peu humainement semblait justifié. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être comme Saül. Nous voulons être comme David, simple, paisible, attaché à toi. Seigneur, viens à notre secours et que on ne se laisse pas entraîner par une malveillance quelle qu'elle soit. Et je te prie, Seigneur, pour chacun des parents ici aussi, afin, Seigneur, qu'ils ne laissent jamais échapper de leur bouche des comparaisons au niveau de leurs enfants. Que vraiment, Seigneur, leurs paroles soient des paroles de bienveillance, d'édification, d'encouragement. Seigneur, tu sais comme c'est facile quand on est excédé de dire des choses qui dépassent notre pensée mais qui restent gravées dans le cœur des enfants. Pardonne-nous, Seigneur. Si on l'a déjà fait, pardonne-nous. Et aide-nous, Seigneur, à prononcer des paroles qui construisent. Et je te prie aussi pour chacun ici, adulte, qui a reçu des paroles de comparaison, qui a reçu des paroles destructrices. Enfin, Seigneur, que chacun puisse guérir, trouver auprès de toi la guérison, puisse pardonner à ses parents ou aux figures d'autorité qui les ont prononcées, honorer les parents, comme on le disait dimanche dernier, et trouver la paix, et que ces paroles soient brisées dans le nom de Jésus, qu'elles ne soient plus présentes à leur esprit, qu'ils puissent être délivrés de ces paroles qui détruisent, et que, Seigneur, ta paix revienne dans les cœurs, parce que à tes yeux, on est tous tellement différents, mais tellement merveilleux à tes yeux. Et tu veux notre bien. Merci Seigneur pour ta bienveillance à notre égard. Aide-nous Seigneur à marcher dans cette bienveillance. Même quand c'est un peu difficile, même quand on est irrité, viens à notre secours Seigneur. Nous voulons être comme Jésus. Amen.